Bah, être caviste, ça consiste à faire des sélections cohérentes par rapport à tout ce qu'on va proposer. Donc caviste, c'est déjà aller chercher des vins dans toutes les régions, sur différents styles, proposer une gamme de vins donc à des prix, voilà, vraiment la gamme, une gamme de prix du premier de l'entrée de gamme jusqu'au voilà des vins haut de gamme et d'un tarif plus élevé. Donc voilà, une gamme cohérente, c'est déjà la première chose, la sélection.
Et donc, c'est par des voyages ou c'est aller dans des salons ou même ça peut être éventuellement au départ sur catalogue, puis on va voir.
Sur des salons, il y a des grands salons, surtout au mois de fin janvier, février. Là, il y a pas mal de salons sur Angers et Saumur. Puis après, il y a des agents. Moi, je connaissais des agents déjà avant de venir ici. Donc, avec Denis à Saint-Briac, j'avais rencontré déjà plusieurs agents donc qui représentent différents domaines.
Donc ils passent, eux ils passent.
Eux ils passent régulièrement avec des vins à goûter, les nouveaux millésimes, les nouveaux domaines que eux représentent, voilà, les nouvelles cartes qu'ils ont eues. Donc voilà, ils passent, ils font goûter tout ça et puis on prend des notes. Il faut surtout prendre beaucoup 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 de notes sur les vins. Moi j'ai toujours pris des notes, c'est intéressant puisque quand on revient sur les vins, sur ces notes, au moins on se rappelle de ce qu'on a goûté et voilà, on a des souvenirs un peu plus concrets, plus précis.
Ah oui, c'est pour pouvoir conseiller les clients après, quoi.
Voilà, c'est ça. On prend des notes déjà pour soi, par rapport à la qualité du vin, des notes pour effectivement après conseiller les clients. Bon, après, tout ce qui est fiches techniques et autres sur les vins, on peut les trouver. On contacte directement les vignerons, on les trouve sur le net, on fait son petit. Moi, j'ai mon petit classeur avec toutes mes fiches, tout ça, de façon à pouvoir en parler. Les anecdotes, c'est sûr que c'est surtout en allant dans les salons et rencontrant les vignerons, ou alors en allant sur place au domaine, ils nous emmènent dans les vignes. Tout ça, donc on peut avoir des choses à raconter, donc ça, c'est intéressant vis-à-vis de la clientèle. Donc, métier de caviste, c'est d'abord ça, c'est d'abord la sélection, puis après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le conseil. Je pense que ça, c'est vraiment le cœur du métier, c'est de savoir conseiller les clients. Il y a des clients qui recherchent des vins adaptés sur des accords mets et vins. Voilà, on a des repas à faire, qu'est-ce qu'on peut mettre sur tel plat.
Il y a combien de produits là dans le magasin en gros?
En gros, dans le magasin, combien il y a de références? Il y a au moins 500, je dirais 500, 600 références, entre les spiritueux et tous les vins.
Et ça tourne beaucoup?
Au niveau des références,
Ouais.
les nouveautés, tout ça, oui, il y a des références qui tournent, qui marchent très bien et donc qui étaient déjà existantes avant. Donc, je suis parti sur une base, donc j'ai gardé certains produits. Voilà, donc ceux-là, je les ai gardés parce que ça marche bien et puis bon, c'est cohérent. Après, moi, j'ai fait rentrer de nouvelles références qui tournent bien également. Puis il y a d'autres références qui demandent que j'aime bien faire tourner régulièrement, c'est-à-dire changer régulièrement. Voilà, il y a ces mêmes certaines références que je vais laisser un certain temps, et puis après je vais les enlever, les remplacer par une autre. Voilà, il faut apporter de la nouveauté. En fait, il faut toujours apporter de la nouveauté dans une cave. C'est comme dans n'importe quel commerce, j'imagine. Je pense qu'il faut montrer que bah, ça bouge, c'est en mouvement, il y a des choses qui se font. Je sais qu'au niveau de la cave, il y a plein de choses à faire. Même au niveau du cadre, il y a plein, plein de choses à améliorer, à mettre en place. Mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure. On a toujours des idées de nouveauté, quoi. En fait, c'est ça, c'est le côté nouveauté qui. D'ailleurs, on le voit quand les clients y viennent et ils voient des nouvelles références dans la cave. Ah tiens, t'inquiète, ça de nouveau, ça donne quoi? Voilà, donc c'est le côté intéressant d'évolutif toujours.
Et justement, et dans les vins qui sont faits depuis très longtemps, est-ce qu'il y a aussi des évolutions, bon, j'espère, vers l'amélioration, mais est-ce que ça, ou alors est-ce que c'est finalement la qualité du vin reste très 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 stable?
Non, il y a toujours des évolutions au niveau des vins. Il y a des vins qui existaient avant dans la cave et que je continue de faire parce que ça reste cohérent. C'est pour ça qu'il faut. C'est pas un métier facile, hein. Il faut goûter régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des vins qui vont rester stables et dont l'évolution va me sembler pertinente par rapport à la cave, par rapport à la clientèle. Et puis d'autres vins que je trouve un peu moins intéressants avec le temps, qui. Voilà, ça devient. Peut-être que d'un millésime sur l'autre, ça change. De toute façon, c'est obligé, ça change au niveau des vins. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
Le réchauffement climatique se fait sentir là, par exemple, ou pas?
Ouais, ça se fait beaucoup sentir au niveau de l'évolution au niveau des vignobles du nord, comme du nord. Quand je dis le nord, c'est côté Loire et tout ça. On a des degrés. Le réchauffement, c'est par rapport à ça. Hein. C'est des degrés qui montent de plus en plus.
Ouais, maintenant c'est 14.
Ouais, 14. 14 dans la Loire, 16 dans le sud. Où va-t-on? C'est incroyable, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en jeu et qui font que bah, le métier évolue. Il y a plein de choses, qui bougent.
Parce qu'on a beaucoup dit que la canicule de 2003 avait fait des vins absolument hors normes, enfin qui ressemblaient à aucun vin des autres années, quoi, en fait.
Ouais, 2003, 2009 aussi, c'est vrai que c'est des années qui sont très chaudes. Alors, c'est pas... Pour moi, ce n'est pas forcément des années qui vont être super intéressantes parce qu'on sort un peu de la typicité des régions et des styles de vin. On va avoir des vins beaucoup plus concentrés, plus chauds, plus alcooleux, comme sur la Loire, à l'époque, comme on a eu à l'époque, sur le Bordelais. Donc ces vins, ces millésimes-là sont toujours encensés par les médias, par les magazines spécialisés. On dit « ouais, millésime exceptionnel, millésime du siècle ». Puis en fait, c'est des millésimes qui vont se faire plus rapidement, qui vont être plus riches, qui vont avoir moins d'énergie parce que mon acidité est plus basse. Donc c'est pas forcément ceux qui se tiennent le mieux, ceux qui sont les plus intéressants.
Et puis c'est pas ceux qui plaisent aux habitués pour le coup, peut-être.
Voilà, c'est ça. Les habitués, ils vont rechercher des millésimes qui vont permettre d'obtenir des vins qui vont être plus dans la typicité dans le style, que ce soit le Bordelais, la Loire ou le Languedoc. On recherche des vins vraiment qui vont... on va retrouver à travers ces vins un certain style, une certaine patte, une certaine région, un univers, quoi, qu'on ne va pas forcément retrouver dans des années qui sont trop chaudes.
Et il y a une adaptation, vous disiez, à la clientèle du fou. Vous en avez parlé un peu, mais en gros, c'est quoi la clientèle du fou? C'est une clientèle qui est plutôt très amatrice ou...
Il y a un peu de tout. Il y a une clientèle qui a ses habitudes, qui vient toujours chercher la même chose. C'est toujours comme dans tous les commerces. Il y en a, ils viennent toujours chercher les mêmes bouteilles. C'est toujours, on a vraiment, quand on voit arriver certains clients, on sait très bien que ça va être ce type de produit. Après, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'essayer de parler avec eux, discuter avec eux, puis de leur dire bah, pourquoi pas essayer. D'ailleurs, si ça m'est arrivé avec certains clients, ils viennent. Puis ben, malheureusement, ce vin-là, il n'y en a plus à ce moment-là. Donc je leur dis, ben, c'est peut-être l'occasion de tester un autre. Et puis ils reviennent la fois d'après. Ah ouais, vous aviez raison, c'était sympa et tout. Donc parfois, c'est sympa de casser un peu les habitudes. Donc il y a ce type, il va y avoir cette clientèle qui va aller toujours vers le même produit. Et puis il va y avoir de la clientèle d'amateurs ou de gens un petit peu plus curieux par rapport à leur plat, leur repas, tout ça, qui vont dire, bon ben voilà, j'ai envie de tester, pourquoi pas un blanc avec... avec le poulet ou un rouge avec le poisson, ou voilà, il y en a qui font vraiment qui se disent bah il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, quoi.
Ils ont du pouvoir d'achat quand même, les gens ici, enfin est-ce que ça peut monter haut? Il y a des collectionneurs peut-être?
Ouais, il y a un certain pouvoir d'achat. Il y a vraiment des amateurs de bouteilles un peu plus recherchées. Moi, j'essaye de... Autant je vais avoir des bouteilles en grande quantité sur certaines références, et puis d'autres, je vais aller rechercher des... Bah, essayer d'aller chercher des vins qu'on n'a pas forcément... Plus des vins d'amateurs, des vins de niche, des vins... Il y a certains vignerons qui ne sont pas faciles à toucher. Il y a certains vignerons, il faut vraiment les contacter plusieurs reprises ou sur plusieurs années. Moi, il y en a que j'ai réussi à voir au bout de 2 ans, 3 ans. Il faut avoir un contact, donc il faut les appeler, il faut envoyer des mails, il faut mettre des petites touches d'humour, voilà, faut essayer de leur montrer que bah, si on vient les voir, si on veut avoir ces vins-là, c'est vraiment parce que ça correspond à une recherche, à quelque chose de sensé, quelque chose à une passion par rapport au produit et par rapport à ce vigneron, parce qu'il y a, vraiment des vins de vignerons, des vins d'artistes, et c'est ces vins-là qui sont... Il y a certains amateurs qui savent maintenant que j'ai ces vins-là à la cave. Alors, je ne vous en parle même pas quand je vais commencer à communiquer et à faire un Facebook, ou c'est-à-dire dans une quinzaine d'années. Non, je ne sais pas. Peut-être avant, non. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je fasse ça, parce que c'est une manière de montrer, c'est une façon importante de montrer bah, toutes les nouveautés, quoi. On reçoit une bouteille, on fait une photo, on met sur le Facebook et avec un petit commentaire. Et puis, c'est intéressant aussi pour la clientèle d'avoir ce type d'information. Donc voilà, il y a des amateurs, effectivement, pour aller sur des produits un peu plus haut de gamme, un peu plus élevés en prix. Donc c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment tout, il y a un éventail vraiment de clientèle. On a vraiment tout l'éventail de clientèle, quoi, que ce soit sur les premiers vins, ou alors d'aller chercher des choses un peu plus pointues, quoi.
Est-ce qu'on pourrait faire le petit chapitre pédagogique sur les vins bio, la biodynamie? C'est quoi les différences, les vins naturels?
Ça correspond à des... En fait, vin bio, biodynamie naturelle, tout ça, ça correspond... Bah déjà, bio, on peut dire que ça correspond à des... Il y a des certifications, donc il y a différents labels au niveau du bio, avec des chartes précises. Donc là, les vignerons qui veulent se convertir en bio sont obligés de ne plus utiliser certains produits de traitement au niveau de la vigne, de ne plus utiliser certains produits, comme on dit, les intrants œnologiques, donc en vinification. Donc voilà, en fait, le bio, c'est ça. Le bio, c'est suivre un certain nombre de règles qui permettent d'avoir justement cette certification. Après, à l'intérieur du bio, il y a des choses encore plus pointues. Il y a des chartes encore plus pointues. Alors on a le bio, après on va avoir Nature et Progrès, après on va avoir Écocert. On va avoir vraiment à l'intérieur, on va avoir des chartes un peu plus... en fait, on a différents niveaux de bio. Voilà, donc le bio simple, c'est voilà, on a le droit d'utiliser tel type de produit, tel type de produit. Puis après, si on va sur la biodynamie, par exemple, la biodynamie, c'est encore autre chose. C'est une philosophie, il y a tout un univers, tous les éléments sont connectés, interconnectés les uns avec les autres, que ce soit le système sous-sol, donc racinaire, après il y a le système aérien, le végétal, et puis on suit les astres, donc on a un calendrier lunaire, on a des jours racines, les jours fleurs, bah, comme les jours fruits, comme les... Mon père, lui, il fait de la biodynamie depuis toujours, il ne le savait pas, mais en fait, il suivait vraiment ce calendrier. Il faisait ses propres purins d'ortie, donc les tisanes de plantes. Biodynamie, c'est ça, c'est dynamiser. En fait, on fait des tisanes, on fait des préparations, par exemple, à base de prêle. On va mélanger un certain pourcentage de prêle avec de l'eau. Voilà, on mélange ça avec de l'eau et on passe ça dans un dynamiseur. Bon, c'est une machine qui va... On peut fabriquer soi-même son dynamiseur. C'est comme... il faut faire tourner... on va faire tourner donc la... La préparation dans un sens, dans l'autre, créer un vortex, il y a toutes des croyances par rapport à tout ça. Et puis après, on va aller pulvériser ça sur la vigne, donc c'est des faibles doses. Hein. Et en fait, l'objectif en fait, de la biodynamie, c'est de redonner à la plante, à la vigne, les moyens de se défendre par elle-même. Voilà.
Et on peut être en biodynamie sans avoir le label bio, en fait, c'est ça?
En fait, il faut déjà être passé en bio avant d'aller en biodynamie. C'est l'étape numéro 2. D'abord, il y a la certification bio. Et une fois qu'on est passé en bio, là, on peut aller vers la biodynamie. Donc, c'est une étape supérieure. Donc, on a de moins en moins de produits. Bon, déjà, au niveau de la vigne, je pense que ce n'est pas à ce niveau-là que ça joue beaucoup sur la biodynamie. Ça va surtout être sur les intrants, tout ce qu'on peut utiliser en vinification. Et puis, mais l'approche, c'est vrai que l'approche aussi au niveau du végétal est vachement importante. Ben, on n'a vraiment pas du tout la même approche, notamment du fait de ces dynamisations, de ces plantes. Bon, après, ça en fait rire pas mal d'enterrer des cornes de vache avec de la bouse pendant 3 mois pour récupérer. Voilà. Il y en a, ils se moquent un peu, mais...
Mais il n'y a pas eu de recherche scientifique, parce qu'après tout, peut-être que la corne de vache et la bouse contient des micro-organismes qui, je sais pas, qui font du bien au sol. Non, il n'y a pas eu de recherche scientifique, je veux dire.
Alors, est-ce qu'il y a une recherche vraiment scientifique par rapport à ça? Je sais que... Je pense que ce qu'il y a eu par rapport à ça, c'est des... ceux qui pratiquent la biodynamie ou ceux qui ont mis en place ces systèmes ont prouvé que le fait d'enterrer par exemple de la corne avec de la bouse au bout de 3 mois, ça donnait quelque chose de très concentré, riche en micro-organismes et autres, et voilà, c'est de la matière organique concentrée qu'on va ensuite diluer et qu'on va pulvériser, vaporiser sur le végétal, donc apporter une richesse.
En tout cas, c'est pas dangereux de toute façon. Au pire, ça peut pas faire de mal.
Non, c'est vrai que c'est pas dangereux, ça c'est clair. Voilà, on citera pas tous les produits dangereux qu'on peut trouver dans les vignes, mais aujourd'hui, de toute façon, la part de bio et de biodynamie, ça reste minime par rapport à tout. Ah oui.
Ça n'augmente pas comme dans toutes les autres productions?
Si, ça augmente un petit peu, mais ça augmente très très peu.
Et les vins au naturel, alors du coup, c'est quoi?
Alors les vins naturels, là, c'est vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire les vins naturels, c'est rien à la vigne. Donc aucune molécule chimique à la vigne, rien en vinification, zéro soufre. Donc là, c'est vraiment...
Il y a un label pour ça, officiel ou pas?
Non, il n'y a pas de label sur les vins naturels, il n'y a pas de label officiel. Est-ce que c'est vraiment évident à mettre en place ce type de label? Je suis pas sûr à 100%.
Bah, disons que ça peut laisser la place à des tricheurs, quoi. C'est ça le problème.
Voilà, c'est ça. Là, on peut se réclamer, on peut se proclamer viticulteur vigneron en vin naturel, alors que bon, on peut utiliser certains produits sans forcément le. Oui. Mais bon, ça arrive dans tous les. Je pense que c'est pas que dans le vin, pas que dans ce domaine, quoi.